Europe 1. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1.
Pour l'honneur, combien d'actes fous insensés ont été commis par nos ancêtres pour l'honneur? Je dis par nos ancêtres, car il semble que ce fameux honneur soit de moins en moins à l'ordre du jour par les temps qui courent. Toujours est-il que le dossier d'aujourd'hui s'ouvre chez nous, en France, il n'y a pas si longtemps. Mais il n'est en France, si l'on peut dire, que géographiquement, par l'esprit, il se passe ailleurs, au milieu de gens pour qui l'honneur est encore une chose vivante. Mais comme tout ce qui vit, il porte avec lui ses contraintes et ses malheurs, ainsi que le prouve cette histoire. Nous sommes le 19 mars 1958. Une route battue par un vent glacé, un vent qui semble attiser un incendie. Cet incendie brûle dans le cœur de deux jeunes gens. Il n'y a pas si longtemps, cet incendie était celui de l'amour fou, de l'amour qui brave les contraintes ancestrales les plus sévères et les on-dits qui savent faire tant de mal. Oui, il n'y a pas si longtemps, cet incendie se nourrissait des flammes de l'amour et aujourd'hui, 19 mars 1958, c'est un feu peut-être encore plus brûlant qui couve dans le cœur des deux jeunes gens. C'est la haine. La haine farouche. La haine que rien n'arrête. La haine qui tue. Pour l'instant, le garçon et la fille ne sont que deux silhouettes fugitives sous une lune indifférente qui brille dans le ciel nettoyé par le vent. Dans quelques instants, des instants qui ne se comptent même plus en minutes, l'une de ces deux silhouettes va rouler sur les cailloux du chemin. L'un des deux, le jeune homme ou la jeune fille, l'un des deux va mourir. Celui des deux qui a décidé la mort voudrait-il à cet instant arrêter la machine, que cela ne serait pas non plus en son pouvoir et que la terrible décision s'accomplirait malgré tout. Ainsi en est-il lorsque la vendetta est en marche. Oui, c'est bien de vendetta qu'il s'agit. Elle s'appelle Vincenza Geraci. Il se nomme Giuseppe Tardanico. On l'appelle Giuseppino. Elle l'a toujours appelé Pino. Pino. Réfléchis encore. La jeune femme s'est arrêtée brusquement. Elle pose la main sur le bras de l'homme et lui tient la manche. Il ne la regarde même pas, la main fourrée dans la poche de sa veste. Il se dégage d'un mouvement d'épaule et reprend la marche. Vicenza le rattrape après quelques pas. Elle fixe avec ardeur ce profil qu'elle trouve toujours si beau et qui lui oppose la différence d'un mur. Elle parle, en marchant à voix basse. « Pino, pense à l'enfant. Pense à l'enfant. » Toujours le profil indifférent. Toujours les pas rapides qui ne laissent aucun répit. « Pino, j'ai prié. J'ai tellement prié la Madone. Et maintenant... Fais attention, Pino. » Les mâchoires de l'homme se sont serrées, et dans sa poche, sa main saisit le manche en corne d'un long couteau à cran d'arrêt. Les mâchoires sont tellement serrées que l'on pourrait entendre ses dents grincer à chaque parole de la petite dame brune qui trotte à ses côtés. Giuseppino a glissé l'ongle du pouce dans la petite rainure de la lame d'acier, et dans la poche, le grand couteau commence à s'ouvrir. Cette entrevue, cette marche pressée côte à côte dans la nuit, ne peut, ne doit se terminer que dans le sang. Ainsi, on a décidé une loi implacable, une loi qui n'est écrite nulle part, une loi aussi vieille que la mémoire des hommes, dont elle règle la vie et la mort, une loi de l'honneur. Et les deux silhouettes qui marchent pressées en pleine nuit, ce 19 mars 1958, ces deux silhouettes n'ont plus aucun moyen à cette minute d'échapper à la loi implacable. Celui des deux qui doit mourir, se mettrait-il à genoux ou s'enfuirait-il à l'autre bout du monde? Qu'il mourrait quand même. Oui, je vous l'ai dit, dans quelques secondes. L'une des deux silhouettes va franchir les portes noires de la mort, cette nuit du 19 mars 1958, à 0h45 minutes. Pourtant, nous ne sommes pas en Sicile. Ce vent froid qui balaie la route a traversé les glaciers des Alpes. Nous sommes près de Poisa, rue Léon Jouhaud, à 3 kilomètres de Grenoble. Grenoble, oui, en France. Grenoble, où se joue le dernier acte de la vendetta. 15 mai 1934. Dans le petit village de Riesi, la famille Tardanico salue de quelques bouteilles de vin la naissance de Giuseppino, un garçon de plus. Le 10 septembre 1939, à Somatino, le village voisin, à peu près autant de bouteilles du même vin chez les Geraci pour la venue au monde de Vicenza, une fille de plus. Entre les deux villages, on s'est battu et on se battra encore en se jurant une haine éternelle pour un bout de terrain pelé. Mais entre les deux villages, on se marie. Garçons et filles sont tous plus ou moins cousins. Et puis chaque jour, les enfants issus de ces mariages se retrouvent ensemble à l'école de la liberté et des grandes promenades dans les maquis, à l'école de la vie. On n'y apprend pas tellement à lire et à écrire, mais quand on en sort, on sait jouer des coudes, marcher pieds nus sur les cailloux, trouver de l'eau où il n'y en a pas et se contenter d'une tranche de blé dur et quelquefois, c'est la fête, d'un fromage de chèvre. Giuseppino, Giuseppino! La bande de gosses aux jambes fines tout en muscles est en pleine escalade, petite silhouette agrippée à flanc de rocher comme des chamois. Giuseppino, où es-tu? Oh, je suis là. Je vous rejoins. Le gamin est en bas de la pente. Il agite le bras en sortant de l'ombre. Où était-il encore fourré, celui-là? Ben, il causait. Il causait avec la Vicenza. La Vicenza Geraci. Ah, ha, ha! Vicenza et Pino sont fiancés, ils sont fiancés! Vicenza et Pino sont fiancés, Vicenza et Pino! Sous le soleil de Sicile, les enfants des deux villages jouent à se fiancer, ils jouent à la guerre, à la bataille, comme tous les enfants du monde. Mais plus sérieusement peut-être que chez nous. Ici, on ne joue pas aux gendarmes et aux voleurs, personne ne voudrait être le gendarme. Il y a des bandes, des clans, mais chacun est fier et libre, comme dans les histoires que l'on raconte dans les familles. Des histoires où le fil conducteur est toujours l'honneur, le motif toujours la vengeance, et la fin toujours la mort. Et puis on grandit. La guerre passe, mais ici on est déjà tellement pauvre que même la guerre ne peut pas apporter les privations dont on souffre ailleurs. On grandit et on oublie les fiançailles d'enfants dans le maquis. Les belles histoires d'honneur et de mort s'estompent et n'intéressent plus que les très vieux ou les très jeunes. On n'est plus préoccupé que par une chose, le travail. Le travail qu'il faut trouver. Et c'est déjà tout un travail que d'en chercher. Les plus âgés, ceux qui ont de la chance ou du courage, s'en vont vers les pays riches, vers la France. Antoinette, la sœur de Giuseppino, a épousé l'aîné de la famille Sambito, le gars Damiano, du village d'à côté. Giuseppino rêve quand arrivent les lettres d'Antoinette. Grenoble, Poisa, le lieu-dit les Marais où habite sa sœur. Tous ces noms étrangers lui font envie, tout comme nous font envie les noms des villages de Sicile. Chère famille, ici, tout va de mieux en mieux. Nous avons acheté une radio. Nous parlons bien français. Nous avons retrouvé dans la région beaucoup de compatriotes. Embrassez bien Giuseppino. Et dites-lui que nous regrettons bien de ne pas l'avoir près de nous, car avec son métier de maçon qu'il a appris, il pourrait facilement trouver du travail lui aussi. Giuseppino, eh bien, le voici qui débarque à Poisa avec sa valise de carton, sans un sou en poche, car il a tout dépensé pour le voyage, mais avec deux mains bien solides et toute l'énergie de la jeunesse. Sa sœur Antoinette est folle de joie. Son beau-frère Damiano lui trouve aussitôt du travail. « Bien entendu, Pino, tu habites chez nous. Nous avions déjà préparé un lit pour toi. » Et Giuseppino travaille, avec la joie de travailler, et chaque soir, il rentre chez sa sœur et son beau-frère, où il ne dépense guère. Aussi arrive-t-il à faire ce qu'il croyait impossible en ce bas monde, des économies. Et puis, après des mois et des mois de travail, il se rend compte qu'il va pouvoir faire comme les Français une chose impensable, prendre des vacances. Des vacances. Est-ce que l'on pouvait croire qu'une chose pareille existe? Et pourtant le voici prêt à partir, avec une valise neuve, une chemise neuve. Et tout naturellement, il retourne au pays. Il dit au revoir aux amis, et notamment à Filippo Geraci, qui s'est installé dans le voisinage après avoir épousé la sœur de Damiano. « Adieu, Giuseppino, sacré vénard. Tiens, puisque tu retournes là-bas, Passe un message pour moi. Si tu vois ma sœur, dis-lui que je l'aime bien et que je pense à elle.
Ta sœur, Filippo?
Mais oui, ma sœur. La Vicenza. La Vicenza Geraci.
Oh oui.
Giuseppino retourne au pays.
Giuseppino n'oubliera pas le message.
Il va la revoir à Vicenza. Et cela va être le début d'un court bonheur et d'un long malheur.
C'est le bal du plein été entre les quatre arbres de la place du village. On a tendu des fils avec des petits drapeaux, quelques lampions. Giuseppino a mis la belle chemise de France. Il y a là toute la jeunesse des villages de Riesi et Somatino. Giuseppino cherche la Vicenza pour lui passer le message d'affection de son frère qui est installé à Grenoble. La Vicenza? Mais c'est elle, là-bas, près des musiciens.
Jésus, c'est cette jolie fille?
Hé, je ne l'aurais jamais reconnue. Je me souviens d'une gamine, à peine grande comme ça.
Hé, c'est qu'elle a vieilli, elle aussi. Elle a eu ses 16 ans. Elle va vers les 17.
Et Giuseppino retrouve Vicenza. Il lui passe le message de son frère.
Et Vicenza voit devant elle un grand gars si beau dans sa chemise de France, un grand gars avec un profil de prince, enfin.
Comme elle imagine les princes des histoires de princes. Et Vicenza danse avec Pino. Et ils se reverront le lendemain et le lendemain encore. Et puis, voici très proche la fin des vacances.
À la table installée derrière la ferme des Geraci, il y a deux hommes face à face. Les femmes ont débarrassé les restes du repas exceptionnel et elles se sont retirées. Elles se sont retirées, y compris Vicenza, et pourtant c'est d'elle que l'on parle, de son avenir, de toute sa vie. Les deux hommes face à face, c'est le père de Vicenza, Giuseppino. On parle fiançailles et mariage. Ce sont des décisions qui se prennent sans la fiancée. On parle de la dot, 50 000 livres. Pourtant, le père, ancien mineur dans les mines de soufre, rongé par la maladie, ne peut même plus subvenir aux besoins de la famille. Cela fait déjà plusieurs années que Vicenza est employée comme servante dans des familles bourgeoises. Giuseppino et Vicenza sont amoureux. Cela devrait suffire, mais pourtant, le père promet la dot. C'est un point d'honneur. Avant la fin des vacances, avant le retour de Pino vers la France et le travail, les fiançailles sont célébrées. Pino rentre à Poisa, il porte en lui une provision de soleil du pays et sur lui, autour du cou, une chaîne avec une petite croix d'or pour lui rappeler le serment qu'il a échangé avec Vicenza. Entre la France et la Sicile, entre Poisa et Somatino, on s'écrit. On s'écrit des lettres officielles avec des formules d'amour à la fois indispensables et raisonnables, car les lettres sont lues par les parents.
Ah oui.
Alors il faut bien qu'il y ait des mots d'amour puisque l'on est fiancé, mais il faut aussi rester dans les limites du respect et de l'honneur. Un jour, c'est le choc. Le père de Vicenza, trop malade, trop pauvre, ne pourra pas payer la dot. Alors la famille décide que les fiançailles sont rompues.
L'honneur le commande.
Mais Vicenza a donné son cœur à Giuseppino. Elle continue malgré tout à se considérer comme sa future femme. Mais elle continue aussi à lui écrire clandestinement. Et après ce que Pino a juré, elle pense, elle est sûre qu'il continue à songer à elle de la même manière.
Mais ses lettres à lui s'espacent et finissent par ne plus arriver. C'est que Giuseppino change. Il change au grand étonnement de tous. Voyez-vous, chers amis, il faut bien imaginer dans quel cadre se passe la vie de ces exilés. Si vous pensez un seul instant qu'ils sont seuls, isolés, ou en petites cellules au sein d'un monde étranger, vous vous trompez. Dans le Dauphiné, il y a une vraie colonie italienne, 60 000 personnes environ. Chaque année, 2 à 3 000 émigrants viennent s'y ajouter, et tout naturellement, ils se regroupent pour habiter dans les mêmes quartiers où bientôt fleurissent les pizzerias, et l'on a tôt fait de lancer les cordes à linge de fenêtre en fenêtre en travers de la rue, où l'on préfère crier fort pour se dire quelque chose plutôt que de monter les étages. On retrouve sa langue, ses histoires, sa nourriture, ses traditions. Et personne ne fait rien pour y échapper, bien au contraire.
Personne ? Sauf Giuseppino. Giuseppino a conscience que s'il reste dans cette atmosphère, il ne sera pas véritablement sorti de tout ce qu'il cherchait à fuir en quittant la Sicile. Alors il s'éloigne, il sort beaucoup. Il fraternise presque uniquement avec des Français, surtout des Françaises. Oh oui, les Françaises, si différentes, qui aiment tant rire, qui sont tellement plus libres que les Siciliennes vêtues de noir. Or, en voici une. Une Sicilienne brune, discrète, qui débarque à Grenoble le 22 août 1957. C'est Vincenza. Elle a tout quitté, son village, sa famille, car elle n'en pouvait plus d'être loin de son fiancé. Dans la maison de Poisa, il y a Antoinette et Damiano. Il y a leurs 6 enfants. Tout le monde en costume du dimanche. Et Pino? Où est Giuseppino? C'est la première question de Vincenza quand elle franchit le seuil. Pino? Mais il est sorti. Et comme tous les dimanches. Sorti avec ses amis. Le soir, il est là. On les laisse seuls. Ils ont sûrement des choses à se dire. Mais elle ne peut dire qu'une chose. Tu vois, j'ai tout laissé, tout bravé pour venir te rejoindre. Est-ce que tu m'aimes encore? Et lui, qu'est-ce qu'il peut répondre dans une telle situation? Il répond que oui, qu'il l'aime encore, qu'il l'aimera toujours. Il a tort. Certainement, il a tort. Mais peut-il faire autrement avec toute la famille qu'il sent attendant derrière la porte? Et puis, Vincenza est bien jolie. 3 jours plus tard, il devient évident qu'ils ont besoin d'une chambre pour eux. Alors le beau-frère Damiano aménage le garage avec un clin d'œil à sa femme Antoinette. Si les choses en sont là, laissons-les faire. Ils ne tarderont pas à se marier puisqu'ils sont fiancés, puisque Pino a juré fidélité. Mais Pino n'en est plus là. Pino voudrait autre chose maintenant qu'il connaît ce coin de France. Il sait qu'avec son métier, il peut travailler n'importe où. Il sent qu'il pourrait éclater, se libérer enfin de la famille, des traditions. Il y était presque. Et le voilà maintenant avec une femme sur les bras et tous les regards du clan fixés sur lui. Il se sent de plus en plus coincé. Surtout le jour où Vincenza lui annonce qu'elle attend un enfant. Et le voilà Pino qui tourne en rond dans le garage aménagé qui est leur maison. Le voilà qui parle de moins en moins, qui semble, pour un oui, pour un non, pris d'une rage froide. Un rien l'énerve. Ah, ils sont loin les serments d'amoureux après le bal du petit village sicilien. Voici bientôt les disputes dont l'écho de plus en plus fréquent parvient aux oreilles de la famille, des amis. Plus personne dans le clan n'ignore l'état des choses et le moindre déjeuner le dimanche, la moindre soirée, n'ont plus qu'un sujet de conversation. Alors quand, Pino? Quand emmènes-tu Vincenza chez le maire? Et Giuseppino, pris sous le feu roulant des questions, Giuseppino tergiverse de plus en plus enragé, il essaie de gagner du temps. Bientôt, mais oui, très bientôt. Alors pourquoi pas tout de suite? Mais il y a les papiers. Vous comprenez les papiers? Nous sommes étrangers tous les deux, on ne se marie pas comme ça, il faut des papiers, beaucoup de papiers, qui ne sont pas encore arrivés. Ah, les papiers. Il a trouvé cette maigre excuse. La famille et les amis, pourtant, qui n'y connaissent pas grand-chose, y croient à cette histoire de papiers. Ah, c'est vrai qu'il faut des papiers pour tout quand on est étranger. Voilà un peu de temps de gagner. Mais combien? Bientôt, les discussions reprennent, qui se transforment cette fois en bagarre. Le ton monte, on s'empoigne avec rage, en-dessus des tables renversées. On ressort le vieux mot sacré, l'honneur. L'honneur de la famille, l'honneur de la parole donnée. Le bruit de cette situation est remonté jusqu'au pays. Cela ne peut plus durer. Pino doit épouser Vincenza avant que l'enfant naisse. Oui. On a ressorti le vieux mot sacré. Et avec lui sont apparus les couteaux, les longs couteaux à cran d'arrêt. Voici l'ami Piliteri du village de Vincenza. L'ami Piliteri crache au visage de Pino en le traitant de parjure. Et comme Pino se détourne, l'ami Piliteri lui plante son couteau dans le ventre. Au retour de l'hôpital, Pino va trouver Vincenza et pleurer, Vincenza en larmes, car c'est à cause d'elle que tout cela est arrivé. Elle l'aime toujours. Elle n'envisage d'autre solution que d'unir sa vie à celle de cet homme. Mais les mois passent. La blessure est guérie. Et Pino est de plus en plus froid, de plus en plus lointain. Maintenant, Vincenza a compris. Pino ne l'épousera jamais. Elle va trouver son frère Filippo. J'ai compris, tu sais. À cause de moi, ton honneur et celui de toute la famille est menacé. Trouve-moi une arme. Je ferai ce qu'il faut. Oh, pas une seconde, Filippo n'essaie de dissuader sa sœur. Elle est dans la droite ligne de la tradition des femmes de son pays. Il connaît un brocanteur nord-africain qui lui procure sans difficulté un vieux revolver d'ordonnance calibre 11 mm. Vincenza fourre le revolver chargé dans son sac. Si je vois Pino, je le tue. Nous sommes le mardi 18 mars.
Elle le voit, Pino. Elle a le revolver sur elle. Mais elle ne tire pas.
Elle l'a retrouvé dans le café au coin de la rue chez Maria Bianca, à l'enseigne du bon vin.
Elle ne tire pas.
Elle ne tire pas parce que Pino vient près d'elle avec un sourire. Le sourire qu'elle lui connaissait dans les jours passés. Vincenza, les papiers sont en règle, tu vois? Je ne t'ai pas menti. Demain, nous irons faire les démarches.
Et le lendemain, mercredi 19 mars 1958, Vincenza et Pino, accompagnés du frère de la fiancée, vont à la mairie et à la clinique pour les certificats prénuptiaux.
Le mariage se fera très vite, le jeudi 27 mars. Le soir, chez Filippo, c'est une double fête. La Saint-Joseph, jour de liesse traditionnel, et le mariage prochain de la sœur. Tout le monde est gai, tout le monde chante,
sauf Vincenza.
Bientôt, au bout de la table, on entend des éclats de voix. Et l'on s'aperçoit qu'une dispute, une de plus, oppose les futurs mariés. Pino est exaspéré. « Mais ce n'est pas parce que j'ai les papiers que je t'épouserai. »« Qu'est-ce qu'il dit ?»« Mais calme-toi, Pino !» fait Filippo qui essaie d'adoucir les choses. Alors Vincenza éclate à son tour et révèle ce qu'elle sait. Pino s'est fait engager sur un chantier à 40 kilomètres et il compte se sauver demain matin. « Tenez, vous voulez une preuve ? La voilà la preuve !»
Et Vincenza arrache de la poche de Pino sa carte de travail avec l'adresse du nouveau chantier. Le silence est retombé soudain.
Pino s'est redressé, gifle Vincenza à toute volée et sort.
Mais derrière lui, Pino a laissé un tribunal. Un tribunal de famille. Et c'est Vincenza qui prononce la sentence. Un peu plus tard, tout le monde retrouve Pino au café au bon vin. Tout semble oublié, on joue aux cartes.
Et l'on va boire encore quelques verres chez Salvatore Amato.
Il est minuit et demi lorsqu'on se sépare. À minuit 45, nous retrouvons les deux silhouettes qui marchent à pas pressés sur la route de Poisa. C'est la scène que je vous ai décrite au début de cette histoire.
Vincenza essaie une dernière fois de parler, mais elle ne rencontre que le profil buté de l'homme qu'elle aime.
Et voici Pino qui sent la rage monter en lui.
Pino qui commence à ouvrir dans sa poche le long couteau à cran d'arrêt.
Maintenant, quelqu'un doit mourir.
Alors Vincenza se retourne, fait un signe.
Et quatre silhouettes sortent de l'ombre. Il y a là Filippo, le frère de la fiancée bafouée, Salvatore Amato et les frères Sambito. Ils ont suivi le couple en silence. Pino se retourne.
Vous m'avez suivi à quatre. Vous ne me faites pas peur. Je vais vous faire manger la terre.
Les quatre silhouettes se rapprochent.
À la dernière seconde, Vincenza essaie de s'interposer. Quelqu'un la bouscule, elle tombe dans le fossé où elle s'entaille profondément la main sur un tesson de bouteille. Pendant qu'elle sent monter en elle la douleur, elle voit Domenico Sambito tirer de sa poche le vieux revolver 11 mm qu'elle lui a donné après la réunion du tribunal de famille. Salvatore Amato brandit un 8 mm tout aussi vieux mais tout aussi efficace. Cinq coups de feu claquent à bout portant. Giuseppe Tardanico, Pino, qui a manqué à sa parole. Pino est mort. Un an plus tard, une jeune femme brune sort un peu éblouie du palais de justice. Vincenza a été condamnée à 3 ans de prison avec sursis et les deux meurtriers à 5 ans ferme. Un verdict qui laisserait penser que les jurés ont compris ce que représente la loi de l'honneur pour les Siciliens. Vincenza marche vers le quartier italien où des centaines de personnes l'attendent. Dans ses bras, elle porte un petit garçon de quelques mois. Un petit garçon né en prison. Un petit garçon qu'elle a appelé Giuseppino.
Vous venez d'écouter Les Récits Extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Direction artistique, Xavier Joly. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Belmar. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.